Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 6h30 pour faire le plein d'infos. Et chez nous, les infos, elles ne sont pas au rabais.
C'est les sols, je vais enfin pouvoir acheter des fruits de mer. Yeah! Encore mieux, je vais prendre un DVD de Christophe Lambert pour acheter le deuxième est offert. C'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes. Triple youpi.
Triple youpi, c'est les soldes, comme le chantait Hold de Laff en 2012 sur l'antenne d'Europe 1. Alors, est-ce qu'on va pousser ce cri triple youpi en ce premier jour des soldes d'hiver? C'est pas sûr.
Oui, des soldes sous Covid. Encore une fois, la propagation du variant Omicron et la menace très présente de contamination ne nous donnent pas vraiment envie, enfin, je sais pas pour vous, mais d'aller faire du shopping dans les boutiques.
Ajoutez à ça l'engouement de plus en plus important pour les achats en ligne et les ventes privées qui nous proposent des promotions à différents moments de l'année. Les soldes sont-ils encore attractifs et ont-ils encore du sens? Nous poserons ces questions à Florence Bonnet-Touré. Elle est secrétaire générale de la Fédération nationale de l'habillement. Dans l'actualité ce matin, Julien.
Vous l'avez sûrement remarqué, si vous utilisez beaucoup votre voiture, les prix du carburant qui s'étaient stabilisés, voire qui avaient régressé ces dernières semaines, sont à nouveau repartis à la hausse. 1,59€ en moyenne le litre de gazole, c'est plus qu'au déclenchement de la crise des gilets jaunes il y a 3 ans. On va y revenir évidemment dans nos journaux.
On va s'intéresser également à cette petite révolution dans la justice.
Révolution dont les contours vont être dessinés ce matin par le garde des Sceaux. Les cold cases, les affaires classées non résolues seront désormais confiées à des juges spécialisés, formés à traquer notamment les tueurs en série. Fini théoriquement ces dossiers qui prennent la poussière pendant 10, 20 ou 30 ans en attendant qu'un magistrat relance sérieusement les investigations.
Et cette juridiction spécialisé, c'est exactement ce que réclamaient les spécialistes des cold cases.
Au premier rang duquel, maître Corinne Herman, c'est l'avocate notamment du père d'Estelle Mouzin ou encore des familles des disparus de l'Isère. Elle se bat depuis des années pour que ces affaires ne tombent pas dans l'oubli. Nous serons en ligne avec elle à 6h10 pour sa toute première réaction aux annonces du ministre de la Justice. Enfin, on terminera comme chaque matin, on bine avec votre partition.
Un immense guitariste, fleuron de la scène blues rock psychédélique californienne dans les années 60 et 70. Le guitariste Steve Miller, leader du Steve Miller Band, un bout de son histoire à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme. Très bon réveil avec Europe 1 et la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Le froid est bien là.
Oui, le froid, mais aussi le soleil qui s'installe. C'est quand même une bonne journée d'hiver que nous allons avoir aujourd'hui grâce à un bel anticyclone. Alors, qui dit anticyclone en hiver dit humidité plaquée au sol le matin. Donc attention, on a beaucoup de brouillard. On a une large bande qui va des Pyrénées jusqu'au Grand Est, une large diagonale avec de nombreux brouillard en passant par l'Auvergne. Attention, ce matin dans le Grand Est, les brouillards sont givrants avec des températures négatives. Cet après-midi, c'est le soleil qui l'emporte, sauf entre la Bretagne et les Hauts-de-France où là, ça reste nuageux. Moins 7 à Aurillac, moins 5 à Rodez, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Paris, 2 à Bordeaux et 10 à Saint-Brieuc. C'est très frais ce matin, couvrez-vous.
Merci beaucoup Anissa. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
La maîtresse nous a appelés, mais elle nous a appelés à 5h du soir, donc elle a pris son temps à elle. C'est juste dommage que les enseignants se sont obligés à faire grève pour se faire entendre.
Le soutien d'une maman apporté à la maîtresse gréviste comme 75% des enseignants demain, la moitié des écoles fermées. Mobilisation historique contre le protocole sanitaire dans les établissements, les parents s'organisent. Jusqu'à 800 000 personnes risquent de voir leur passe sanitaire désactivé ce week-end, faute de rappel contre le Covid. Comme d'habitude, il y a ceux qui s'y prendront au dernier moment. Certains centres se préparent pour pouvoir piquer en temps et en heure. Nous serons à Bordeaux dans ce journal. Et puis, les députés au secours des agriculteurs face aux dégâts causés par le changement climatique. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui un projet de loi pour mieux les indemniser alors que les événements météorologiques deviennent de plus en plus fréquents et violents.
Europe Matin. Et Julien Pierce.
Le premier journal de ce mercredi 12 janvier, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Journée noire dans l'éducation nationale demain. Si vous êtes parent, vous faites peut-être partie de ceux qui doivent s'organiser en urgence pour trouver un mode de garde pour votre enfant, puisqu'une grève est aussi inédite qu'historique qui est organisée contre le protocole sanitaire. La moitié des écoles fermées, 75% d'enseignants mobilisés en primaire, selon le SNUIPP-FSU. Cette grève, beaucoup de parents la soutiennent, mais ils doivent quand même aménager leur emploi du temps, comme l'a constaté Zoé Pallier. Reportage.
un mot collé dans le carnet de correspondance de son fils pour annoncer qu'il n'y aura ni classe ni cantine dans son école jeudi. Kadi s'y attendait, elle redoutait un peu cette nouvelle.
Cette grève, elle arrive vraiment à un moment où j'en peux plus. Ça fait déjà depuis la rentrée qu'on est appelé constamment à cause de cas contacts. Ça fait plusieurs fois que je dis à mon employeur que je pourrais pas être là.
Poser un jour de congé, faire du télétravail quand c'est possible, les parents anticipent.
Avec les parents d'élèves, on s'est proposé de s'entraider pour se garder les enfants à tour de rôle par petits groupes.
Et même si cela chamboule, une fois de plus, leurs emplois du temps, la plupart refusent de s'en plaindre. Ils comprennent la colère et l'épuisement des enseignants.
C'est très rare qu'il y ait des grèves dans son école. Et je peux comprendre quand même, parce que ça doit être compliqué, ça doit être fatigant. Par exemple, elle était cas contact la semaine dernière, et la maîtresse nous a appelés, mais elle nous a appelés à 5h du soir, donc elle a pris son temps à elle. C'est juste dommage que les enseignants se sont obligés à faire grève pour se faire entendre.
Et certains vont même plus loin. Des membres de la Fédération de parents d'élèves FCPE ont décidé de garder leur enfant à la maison jeudi, même si leur enseignant ne fait pas grève.
Zoé Pallier. Et hier, les personnels hospitaliers sont descendus par milliers dans les rues de toute la France pour demander des hausses de salaire, des moyens, des postes pour l'hôpital public, mais aussi l'arrêt des fermetures de lits.
Et plus de 25 000 lits sont d'ailleurs occupés par des patients Covid en ce moment, dont près de 4 000 en soins critiques.
Et un nouveau record de contamination, 368 000 en 24 heures. Du jamais vu, alors que dès ce week-end, jusqu'à 800 000 passes sanitaires risquent d'être désactivé, faute de rappel d'un vaccin anti-Covid. Alors, il y a ceux qui refusent et ceux qui ont tout simplement oublié. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant dans le sud-ouest. Et à Bordeaux, par exemple, on se prépare à voir arriver tous les retardataires.
Oui, cette échéance qui interviendra samedi précisément, eh bien, c'est déjà la promesse d'un afflux sans doute conséquent. Ici, par exemple, au centre de vaccination du CHU de Bordeaux, que dirige le docteur Marianne Lafitte.
Là, on s'y prépare. On voit arriver quand même l'obligation du rappel. On voit arriver le pass vaccinal. Donc, on a augmenté le nombre de lignes de vaccination. Aujourd'hui, on fait 600 ou 700 vaccinations par jour. On est prêt à monter à 1000 demain. On a des réserves d'étudiants, d'infirmières retraitées qui peuvent du jour au lendemain venir nous aider si on veut monter en charge.
Des soignants confrontés à l'agressivité, voire aux menaces et parfois aussi à des fraudeurs, prêts à tout pour obtenir un certificat de vaccination.
Il y a des personnes qui cherchent à nous gruger et même à corrompre. Hein. On a eu des billets de banque qui ont été sortis de la poche de certaines personnes qui demandaient à payer un des vaccinateurs pour qu'il accepte de lui faire un faux pass. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner toute cette équipe pour qu'on ait un discours très cohérent et très ferme. Aujourd'hui, on a quand même les moyens de vérifier si la personne a reçu une vaccination ou éventuellement a été infectée par de la Covid. Donc on fait des trottes sérologiques et après on discute.
Avec des conversions quelquefois soudaines comme celle de cette sexagénaire pressée de recevoir sa première dose après avoir appris la mort, a-t-elle expliqué des frères Bogdanov.
Merci Stéphane Place, correspondant Europe 1 dans le Sud-Ouest.
C'est la question que vont se poser les députés aujourd'hui. Comment mieux protéger et surtout mieux indemniser les agriculteurs victimes d'épisodes de gel tardif, d'inondations ou encore de sécheresse à répétition.
Ouais, hein, c'est le sujet dans l'hémicycle aujourd'hui avec l'examen du projet de loi sur la refonte de l'assurance récolte. Les 389 000 agriculteurs français sont concernés. C'est pour ça, Maud Descamps, qu'il faut agir très rapidement.
En effet, car aujourd'hui en France, seulement 30% des surfaces agricoles sont assurées face aux risques climatiques. On parle de grêle, de gel ou encore de sécheresse. L'une des principales raisons invoquées par les agriculteurs, mais aussi le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, le prix beaucoup trop élevé des assurances. Pour Jérôme Regnault, agriculteur dans les Yvelines, il est pourtant essentiel que les exploitations soient massivement assurées face à des événements climatiques de plus en plus violents.
Les risques, on le voit, ils sont répétés. Cette année, c'était excès d'humidité, mais surtout gel très tardif. Tout se multiplie, c'est-à-dire l'exceptionnel est devenu récurrent. Donc, il faut absolument, en effet, avoir l'outil nécessaire à pouvoir couvrir le risque en un métier comme l'agriculture qui est aussi attenant à la météo.
Le texte examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée organise un système d'assurance universelle en 3 niveaux d'indemnisation. Jusqu'à un certain niveau de perte, ce sera la responsabilité de l'agriculteur. Ensuite, lorsque les pertes seront plus importantes, les assureurs entreront en jeu. Le seuil n'a pas encore été défini. Et enfin, un fonds public indemnisera les sinistres d'ampleur exceptionnelle.
Merci Maud Descamps du service Éco d'Europe 1. J'ajoute que la FNSEA, principal syndicat du monde agricole, soutient cette réforme.
Il est 5h passées de 6 minutes sur Europe 1. Et après 3 semaines de suspension, le procès des attentats du 13 novembre a enfin repris hier, puisque Salah Abdeslam est guéri du Covid.
Oui, une reprise avec l'interrogatoire hier de 5 accusés sur le fond du dossier, à commencer par Mohamed Abrini, celui qu'on appelle l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Il est soupçonné d'être le 11e homme du commando avant d'abandonner le projet. Gladys Lafitte hier Alors, Mohamed Abrini a parlé des attentats et de sa pratique de la religion.
Oui, une vision toujours très radicale puisque l'accusé a justifié les attentats de Paris comme une réponse à la violence de la guerre en Syrie. À défaut d'avoir un soldat tué sur place, on fait des attentats, a-t-il très calmement expliqué, à l'aise, debout dans le box vitré, tout en précisant que lui n'est pas capable de participer à un attentat. Cette vision des choses, Mohamed Abrini ne l'a pas toujours eue. Avant 2014, il n'était pas pratiquant, il faisait la fête, commettait des délits, allait régulièrement en prison. Puis son petit frère meurt au combat en Syrie. Il épouse alors la cause djihadiste, se transforme. Il a d'ailleurs une marque sur le front, signe d'une pratique assidue de la prière. En 2015, il va en Syrie et aujourd'hui encore justifie le djihad. Ça fait partie de l'islam. Celui tel que pratiqué par le prophète n'est pas compatible avec la démocratie, a-t-il assumé. Lorsque le président lui a demandé son avis sur la charia, Mohamed Abrini n'a pas éludé. Pour vous, c'est radical. Pour moi, c'est la loi divine au-dessus de la loi des hommes.
Gladys Laffitte, journaliste au service police-justice d'Europe 1. Un mot de tennis et le feuilleton Djokovic en Australie continue. Dans un communiqué publié ce matin sur son compte Instagram, le numéro 1 mondial du tennis reconnaît une erreur humaine, certainement pas délibérée, puisqu'il a déclaré à tort à son arrivée à Melbourne n'avoir pas voyagé lors des deux semaines précédant son vol. Aussi, il admet une erreur de jugement commise lorsqu'il a reçu un journaliste de l'équipe le 18 décembre, alors qu'il se savait contaminé. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel avance de son côté que son test PCR aurait pu être falsifié.
On passe au foot. 24 ans, près d'un quart de siècle que le PSG est présent sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Et le club de la capitale a fait une petite folie, un nouveau magasin deux fois plus grand.
Une petite folie de 370 mètres carrés, uniquement dédié au club de la capitale, au numéro 92 de la célèbre avenue. Objectif pour le PSG, doubler le chiffre d'affaires de l'ancienne boutique, en surfant notamment sur la popularité des superstars du club comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar, Cyril de la Morinerie.
Oui, cette nouvelle boutique, deux fois plus grande que la précédente, toute proche de l'Arc de Triomphe, confirme les ambitions du PSG. Objectif, doubler le chiffre d'affaires du magasin, atteindre les 30 millions d'euros annuels et faire connaître la marque au maximum de touristes présents sur la plus belle avenue du monde. Dans ce magnifique écrin de 370 mètres carrés, au plafond bleu et rouge qui rappelle les couleurs du club, on retrouve tous les maillots des stars, notamment celui de Lionel Messi. 6 mois seulement après son arrivée, la tunique numéro 30 de l'Argentin, qui trône à l'entrée de la boutique, est déjà en tête des ventes, révèle à Europe 1 Fabien Allègre, directeur de développement de la marque PSG.
C'est le numéro 1. Voilà. Après, on a cette chance d'avoir Mbappé et Neymar. Voilà, il y a des différences, effectivement, et Messi est numéro 1. C'est une icône pour les jeunes, pour les moins jeunes. Donc oui, c'est un carton.
La photo de la superstar est bien évidemment affichée en grand dans toutes les boutiques du PSG à Paris, Doha, mais aussi à Tokyo, Séoul et Los Angeles. D'autres magasins devraient voir le jour prochainement, notamment en Chine.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Décidément, le PSG sont plus forts côté business que sur le terrain. Partout. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h10, c'est l'heure des courses sur Europe 1. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville. Et mon pari gagnant sera le 403 Circo Massimo. Auteur de bons débuts le 27 octobre à Chantilly sur la piste en sable fibré, il n'a pu confirmer lors de sa sortie suivante le 10 novembre à Saint-Cloud, étant visiblement contrarié par le terrain collant ce jour-là. Volontairement ménagé ensuite par son entraîneur Alessandro Botti et à nouveau présenté sur le sable fibré, une surface qu'il apprécie, ce poulain estimé devrait pouvoir dès cet après-midi justifier toute l'estime que son entourage lui témoigne. Alors notez bien, pour Deauville, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 3, Circo Massimo.
Circo Massimo, le très estimé poulain. Merci Thierry Léger, vous revenez avec les pronostics du Quintet dans une demi-heure. Et nous on revient dans moins d'une minute avec votre revue de presse.
Oui, le désormais célèbre pressing que tout le monde nous envie. On n'en fait jamais trop. Au menu, le fléau du squat qui profite à des sociétés immobilières. Il n'y a pas que Novak Djokovic qui ne soit pas vacciné à l'Open d'Australie. Et le SMS vert de la honte. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Ah bah ça fut très très bref.
Ah bah oui.
Ça sert bien à rien de faire un teasing.
Ça c'est parce que l'indispensable pressing doit démarrer tout de suite. Nous sommes rejoints par Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Obi, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux sans même avoir bu un café, quelle honte. Covid-19 et maintenant la grève à l'école, titre Le Parisien aujourd'hui en France. À la veille, effectivement, on en parlait dans le journal, d'un mouvement qui s'annonce très suivi. Plus de 75% des enseignants en grève et la moitié des écoles fermées pour protester contre la multiplication des protocoles sanitaires jugés inapplicables depuis la rentrée de janvier. Croissance, le grand écart mondial, c'est le titre des Échos ce matin qui s'inquiète d'un ralentissement au cours des prochaines années, ralentissement qui toucherait davantage les pays en développement en raison de leurs dettes et du retour de l'inflation. On termine avec le Figaro qui s'intéresse ce matin aux squatteurs, un fléau qui persiste malgré la nouvelle loi, c'est le titre à la une. Et c'est d'ailleurs dans ce dossier très fouillé, Omblin, que vous avez trouvé l'article que vous nous racontez ce matin.
Oui, des sociétés immobilières qui se font du beurre sur les maisons et les appartements squattés, aussi dingue que cela puisse paraître, c'est une triste réalité. Il nous est tous arrivé d'être abasourdis par des histoires de squatteurs qui profitent gratuitement, en toute illégalité, d'un logement qui ne leur appartient pas. On nous raconte des procédures judiciaires interminables, des cas de violence, des biens dégradés, des propriétaires totalement démunis. Depuis un an, donc, cette nouvelle mesure permet une action administrative censée être plus rapide, avec comme aboutissement l'expulsion de ces voleurs de logement. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, interrogée par Le Quotidien, explique que le préfet peut être saisi. Si les squatteurs refusent de quitter les lieux, l'évacuation se fera avec l'aide des forces de l'ordre. Une procédure très efficace, dit-elle. Et pourtant, dans la réalité, tout ne se passe pas aussi simplement comme cela est dicté sur le papier. Des propriétaires à bout ne voient pas d'autre solution que de faire appel à des entreprises qui proposent de racheter le bien squatté et les problèmes avec. Dit ainsi, on imagine tout de suite une solution miracle. Eh bien, ce n'est pas aussi rose que ça en a l'air, parce qu'un propriétaire usé par des mois de procédure, avec frais d'avocat à débourser et prêt à brader le prix de son appartement ou de sa maison pour simplement s'en débarrasser. Concrètement, ces sociétés immobilières spécialisées rachètent le bien squatté moins cher que le prix du marché. Elles essayent ensuite de négocier avec les squatteurs un départ volontaire. Si aucune discussion n'est possible, 15 000 euros sont ainsi mis sur la table en moyenne. Hein, le squatteur.
Donc on paye les squatteurs.
Voilà, payer 15 000 euros pour qu'il accepte enfin de plier bagages. Le bien pourra ensuite être revendu à des investisseurs. Il existe d'autres spécialistes qui, eux, font le lien entre un propriétaire d'un bien squatté et un investisseur prêt à prendre le tout, tout le package, le bien, les squatteurs, tout le monde. Ce marché semble plutôt florissant. Depuis un an, la nouvelle loi dont on parlait plus tôt ne semble pas avoir provoqué une baisse d'activité, ce qui nous laisse quand même perplexe. Le fléau du squat et les entreprises qui rachètent au rabais des logements squattés, c'est-à-dire dans le Figaro.
Des entreprises qui sont donc en train de, d'une certaine manière, de professionnaliser les squatteurs, puisque
oui,
on peut être rémunéré à squatter. On vit vraiment dans un monde formidable. Merci beaucoup, Omblin. Martin, à vous.
Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours du feuilleton Djokovic, un dernier rebondissement cette nuit, on vient d'en parler dans le journal, alors que le gouvernement australien peut encore décider d'expulser le Serbe. Mais on a nettement moins parlé de Renata Verakova. Je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs. C'est une joueuse de tennis tchèque, elle aussi non vaccinée, et qui s'est retrouvée comme le numéro 1 mondial détenue au Park Hotel de Melbourne. Sauf que Verakova n'a ni l'aura, ni les soutiens du Serbe. Elle est repartie en République tchèque incognito dimanche, et c'est là qu'elle s'est exprimée dans une interview reprise par le journal L'Équipe.
Alors pourquoi ne s'est-elle pas battue comme Djokovic ?
Alors déjà, n'est pas Djokovic qui veut, hein. Verakova, malgré une demi-finale à Wimbledon en double en 2017, n'a pas l'expérience du numéro 1 mondial et encore moins son portefeuille. Il est économiquement à l'abri, explique la Tchèque, ce qui est loin d'être son cas. Elle a d'ailleurs prévu de demander une compensation à Tennis Australien pour récupérer toute ou une partie des 2500 euros qu'elle a investis dans son voyage. Par ailleurs, contrairement aux Serbes, Verakova a pu entrer sur le territoire australien. Elle a même disputé le premier tour du tournoi de Melbourne. C'était il y a une semaine, tout juste. Le lendemain, elle est arrêtée et décrit un mauvais film. Un long interrogatoire avec des instructions contradictoires. Déshabillez-vous, rhabillez-vous. Elle dit avoir beaucoup pleuré et surtout ne jamais vouloir revivre ça. Dans sa tête, c'était clair. J'étais déterminée à rentrer chez moi le plus vite possible.
Et elle n'a pas de regrets malgré le fait que Djokovic ait gagné lundi au tribunal ?
Aucun. Elle estime que justice a été rendue car on a tous les deux respecté le règlement. C'est mieux pour le tennis, conclut-elle. avec tout de même une différence majeure avec le Serbe. Verakova n'est plus opposée au vaccin. Pour mon entourage, mes parents, il est juste de se faire vacciner. Mais infectée par le virus début décembre, elle n'a pas pu se faire piquer à temps. Ce n'est que partie remise. Dès que les médecins me donneront le feu vert, je me ferai vacciner. Aucun doute là-dessus. Jusqu'au bout, Verakova se distingue de Djokovic. L'interview de Renata Verakova, c'est à lire sur le site de l'équipe et c'est très instructif.
Merci beaucoup Martin. Dites-moi, quelle est la marque de votre téléphone portable, Omblin ?
Samsung.
Et vous, Martin ?
Samsung, Apple.
D'accord. Donc, est-ce que vous saviez, Omblin, que quand vous envoyez avec votre Samsung des textos à Martin, votre conversation s'affiche dans des bulles de discussion vertes sur l'écran de son iPhone et non dans des bulles bleues ?
Non, je l'apprends. J'ai bleu, jamais fait attention.
C'est les iMessages.
Le bleu étant la couleur effectivement réservée aux SMS que s'envoient entre les utilisateurs de la marque à la pomme.
Ah oui, d'accord. Bleu, c'est entre Apple, quoi.
Exactement.
Ouais, cercle fermé.
Alors, ça devrait pas avoir beaucoup d'importance, mais malheureusement, ça en a dans le monde impitoyable des adolescents. C'est ce que nous apprend cette enquête du Wall Street Journal révélée ce matin, relayée ce matin par le site des Échos. Pour les jeunes Américains, et donc probablement pour nos jeunes également, envoyer des SMS verts et donc ne pas avoir d'iPhone, c'est la honte. Oh mon Dieu, tes messages sont en vert, c'est dégoûtant. Ou encore, ça ne sert à rien d'essayer de me draguer avec tes SMS verts, je ne sors pas avec des pauvres. Voilà le genre de réaction que peuvent recevoir les jeunes qui n'utilisent pas des iPhone, ils se font immédiatement pointer du doigt, voire se font harceler, notamment dans les conversations de groupe qui ont fleuri depuis le début de la pandémie.
Mais ça coûte cher quand même un Samsung, deux téléphones,
que voulez-vous,
les smartphones, ça coûte cher.
Le truc, c'est qu'aux États-Unis, plus de 70% des moins de 25 ans possèdent le smartphone d'Apple, un iPhone. Donc si vous avez un Samsung, un Huawei ou un autre, quand bien même vous l'avez acheté aussi cher qu'un iPhone, eh bien vous n'êtes pas branché, vous êtes un loser. Cette enquête du Wall Street Journal a immédiatement fait réagir Google, le géant américain qui est derrière le système d'exploitation Android, qui s'est empressé de critiquer le fonctionnement de la messagerie d'Apple. iMessage ne devrait pas engendrer du harcèlement avec son système de couleurs, a fustigé dans un tweet un cadre de Google, qui propose à son concurrent d'uniformiser le système, de créer un SMS nouvelle génération, ni vert, ni bleu, bref, un SMS inclusif, un SMS bienveillant. Sauf que la bienveillance est une qualité qui se fait rare dans la Silicon Valley. Dans les emails internes révélés à l'occasion d'un procès, les dirigeants d'Apple confirment que le honteux SMS vert est une stratégie délibérée de la part de la marque à la pomme. Y mettre fin supprimerait un obstacle qui aujourd'hui retient les utilisateurs d'iPhone de passer à Android. Voilà ce que l'on peut lire mot pour mot. Business is business.
C'est incroyable.
D'autant que si vous n'avez pas de 4G, même avec l'iPhone, ça envoie des messages verts. Donc voilà, c'est aussi
En plus,
limite. Oui, voilà.
Ça
n'a pas beaucoup de sens.
Non. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup Julien. C'est ainsi que se termine le pressing pour aujourd'hui. Et Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, dans quelques secondes, les initiatives en France. Bon réveil sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h19. Les principaux titres de l'actualité de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Oui, mais le Sénat devrait adopter en première lecture le projet de loi instaurant le pass vaccinal, mais avec des modifications comme son extinction dès lors que le nombre d'hospitalisations liées au Covid passe sous le seuil de 10 000. Jusqu'à 800 000 personnes risquent par ailleurs de voir leur pass sanitaire désactivé samedi selon le ministère de la Santé. Hier, des personnes qui n'ont pas reçu leur dose de rappel contre le Covid. La moitié des écoles du pays fermées. Demain, 75% d'enseignants en grève. Mobilisation massive et historique dans l'éducation nationale contre le protocole sanitaire. À partir du 16 mars, le don du sang sera ouvert aux homosexuels sans période d'abstinence. Aujourd'hui, elle est de 4 mois. Le donneur devra tout de même déclarer, par exemple, la prise d'un traitement pour la prophylaxie pré- ou post-exposition au VIH, ce qu'on appelle la PrEP. Et puis, coup d'envoi ce matin des soldes d'hiver, ils dureront 4 semaines.
On passe aux initiatives en France, la chronique qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le pays. Et ce matin, Julien, direction l'Alsace.
Bonjour Cédric Simonin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le PDG de Trianon Résidence, un promoteur novateur, puisque vous avez inauguré il y a quelques semaines à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, le tout premier immeuble de logement en France doté d'une façade dépolluante. Expliquez-nous.
Oui. C'est une façade qui a une particularité, c'est que elle absorbe le carbone, notamment des véhicules, et la surface que l'on a développée sur cette façade, qui fait à peu près 450 mètres carrés, absorbe l'équivalent de production de CO2 de 20 véhicules par an.
Elle mange en quelque sorte les particules qui polluent l'air ambiant, c'est ça ?
Alors, on peut dire ça comme ça, de manière assez simpliste, mais en fait, elle est composée de substances qui rendent le carbone en composé neutre. Voilà,
tout ce sont des briquettes, en fait, c'est ça ? Ce sont des briques équipées de photocatalyseurs, exactement, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. C'est des petites briquettes qui viennent s'apposer sur la façade initiale et qui agissent par photocatalyse, c'est-à-dire que c'est la lumière qui détruit ces substances et qui les rend neutres, exactement.
Cette réaction chimique, elle ne produit aucun polluant à son tour ?
Non, aucun.
Est totalement neutre ?
Totalement neutre, oui.
Et cette façade, elle a une limite, une capacité d'absorption maximum ?
Alors c'est difficile à dire parce que, en toute honnêteté, c'est un produit qui est assez nouveau, qui n'a jamais été utilisé pour le logement, qui a été utilisé dans le tertiaire, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une première en France. Et par rapport aux tests qui sont faits en laboratoire, on a une durée de vie qui est quasiment à vitam aeternam. Après, entre les laboratoires et la vraie vie, entre guillemets, je ne voudrais pas mentir et dire que c'est à vitam aeternam, mais en tout cas, on sait qu'on est au moins tranquille pour une trentaine d'années.
Oui, parce qu'en l'état, ces briquettes, elles ne nécessitent pas un entretien particulier. Elles n'ont pas besoin d'être enduites régulièrement d'un produit quelconque.
Il n'y a aucun entretien. Et d'ailleurs, elles sont. C'est aussi un des avantages de ces briquettes, c'est qu'elles sont bactéricides déjà. Et elles ne nécessitent aucun entretien. Donc, vous voyez, pour les ravalements de façade, les surfaces qui ont été développées ne nécessitent pas de ravalement de façade. Donc, une économie potentielle pour la copropriété aussi.
Bon, j'imagine que cette façade écolo, on va dire, doit coûter bien plus cher qu'une façade entre guillemets classique.
Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à une façade dite classique, on a eu un surcoût d'environ 100 000 euros. Alors c'est une question qui a été tranchée assez rapidement, parce qu'à partir du moment où vous avez des convictions, il faut les assumer. Et ce qui est assez surprenant, c'est que on l'a pas fait en se disant ça va faire vendre plus. On l'a fait parce que ça fait partie de la stratégie de Trianon Résidence, ça fait partie de nos convictions. Et aussi surprenant soit-il, c'est qu'en fait la résidence s'est très très bien vendue. Et de nombreuses personnes qui ont acheté le logement avaient l'impression, enfin c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit, de, comme disait Pierre Rabhi, de faire leur part, quoi. Voilà, pour reprendre l'histoire du colibri. Et dans l'achat d'un logement, ils avaient l'impression qu'ils mettaient un peu leur pierre à l'édifice pour favoriser un peu la transition écologique et le développement durable. Voilà.
Alors là, on parle de dépolluer l'air extérieur, mais ce que bien souvent on ignore, c'est que l'air qu'on respire dans nos appartements et maisons est généralement pollué davantage. Est-ce que vous proposez une solution spécifique à ce problème-là ?
Oui. Alors là, depuis de très nombreuses années, ça fait maintenant 7-8 ans que l'on travaille sur le sujet. C'est en fait ces deux constats. Les logements sont 5 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur, essentiellement dû aux matériaux qui sont mis en œuvre et l'utilisation qu'on a des logements, de détergents, bougies parfumées, etc., etc. Et un deuxième constat, c'est que 30% de la population est allergique, 50% en 2050. Donc il y a un enjeu de santé publique. À partir du moment où vous savez ça, et vous avez fait ce diagnostic, la question se posait de savoir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour pallier à ce dont on maîtrise, c'est-à-dire la construction et les matériaux. Et en ce sens, on a beaucoup travaillé avec des médecins allergologues notamment, le CHU de Strasbourg, et avec des industriels pour proposer une offre qu'on a appelée bâtiment sain, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui n'ont ni allergènes, ni composés organiques volatiles, qui sont des substances cancérigènes.
Merci beaucoup Cédric Simonin, PDG de Trianon Résidence, de nous avoir présenté toutes ces technologies et notamment cette façade dépolluante, auto-nettoyante et bactéricide. Et le tout premier immeuble d'habitation à en être équipé, on le trouve à Saint-Louis dans le Haut-Rhin, juste en face de Bâle. Très bonne journée et à bientôt.
Europe Matin. Blin Roche et Julien Pierce.
Je vous souhaite un excellent début de matinée sur Europe 1. Il est 5h28, nous sommes le mercredi 12 janvier. C'est un rendez-vous très attendu par tous les fans de films d'horreur.
Tu aimes les films d'horreur ?
Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant.
Tu aimes les films d'horreur ? Phrase mythique de la saga Scream, débutée en 1996. Nouveau volet dans les salles aujourd'hui. Scream 5 qui nous promet un retour au Source, rendez-vous avec Laurie Choleva dans 20 minutes.
Et puis aujourd'hui, c'est aussi le coup d'envoi des soldes d'hiver.
Oui, ça va durer 4 semaines jusqu'au 8 février. Chaque année, hiver comme été, c'est le rituel. Le défilé des promotions dans les boutiques et la chasse aux bonnes affaires. Depuis, la crise sanitaire fait rage. On fait de plus en plus de shopping en ligne. Les opérations commerciales se multiplient toute l'année. Quel avenir pour les soldes ? On sera avec la secrétaire générale de la Fédération nationale de l'habillement.
Eh bien justement, est-ce qu'il faut beaucoup s'habiller ce matin, Anissa Haddadi?
Oui, chaudement. Ah, il va falloir mettre plusieurs couches, oui, effectivement. Bonnet, écharpe. On a beaucoup de températures négatives ce matin, principalement dans le centre et l'est de la France. Et puis on a beaucoup de brouillard aussi. Ah. Alors ça va de l'Occitanie jusqu'au Grand Est, en passant par le Limousin, l'Auvergne, le Rhône, la Bourgogne, la région parisienne, les Ardennes, l'Alsace, dans toutes ces régions. Attention sur les routes. Les brouillards sont nombreux et même parfois épais. Attention sur le grand quart nord-est, où les températures, je vous le disais, sont très froides ce matin et les brouillards peuvent être givrants. Les chaussées sont gelées, ça glisse ce matin sur les routes. Très rapidement, alors ça c'est la bonne nouvelle du jour, le soleil va prendre le relais et il va briller sur les trois quarts du pays. C'est dans l'extrême nord, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, que le ciel va rester gris cet après-midi, le long des côtes de la Manche. Là, c'est pas terrible, c'est bien triste. Moins 7 à Aurillac et Gérardmer, moins 6 à Manosque, moins 5 au Puy-en-Velay, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Paris et Grenoble, moins 1 à Montpellier, 0 à Lyon, 4 à Nice, 10 à Saint-Brieuc. Il fait frais ce matin, je vous le disais, cet après-midi, 0 à 15. Toujours 8 départements dans le sud-ouest placés en vigilance orange cru. On fait attention sur l'Adour et la Garonne qui sont en crue. On a battu un record hier, 4,31 m pour la Garonne. C'est un record depuis 2000.
Moi, j'ai vu les photos, c'était extrêmement impressionnant. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Coup de chaud à la pompe, le prix des carburants atteint des niveaux records. 1,59€ le litre en moyenne pour le gazole, 1,75€ pour le sans-plomb 98. La hausse des cours de pétrole explique en partie cette flambée. L'éducation nationale à la veille d'une grève massive dans les écoles. Le mouvement s'annonce très suivi. L'épreuve de force s'engage avec le ministre Jean-Michel Blanquer, plus que jamais dans la tourmente. Et puis le coup d'envoi des soldes, aujourd'hui on en parlait un instant, l'occasion de faire le point sur un secteur qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire, celui de l'habillement. Et bonne nouvelle, il se porte un tout petit peu mieux.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La valse des étiquettes n'a jamais si bien porté son nom. Vous avez peut-être fait le constat, si vous avez l'habitude de passer chaque jour devant la même station-service, voire d'y faire le plein, eh bien les prix flambent, près de 1,59€ le litre de gasoil en moyenne, 1,75€ pour le litre de sans-plomb 98. Et on parle encore d'une moyenne dans les métropoles comme à Paris. On flirte avec les 2€ le litre. C'est du jamais vu, mais il y a quelques explications, Carole Ferry.
Bien, c'est simple, ça s'explique par la hausse des prix du pétrole brut. Alors pourquoi le prix du baril augmente? Eh bien d'abord, à cause de la reprise économique. Nous avions déjà enregistré une flambée des prix en octobre. Ensuite, ça s'est un peu calmé sous la menace des reconfinements un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la menace au moins des reconfinements s'éloigne et donc la demande redémarre. Vous ajoutez à cela les tensions en Libye ou au Kazakhstan qui tendent les marchés. Et puis l'OPEP, l'Organisation mondiale des pays producteurs de pétrole, qui vient à nouveau de signer un accord pour limiter la production. Plus de demandes, moins d'offres, et bien mécaniquement cela fait grimper les prix. Alors en octobre dernier, le gouvernement a répondu à cette hausse par le chèque inflation de 100€ distribué à tous les Français qui gagnent moins de 2000€ net par mois. Pas de nouveau coup de pouce envisagé pour le moment. Bercy se débat déjà avec les prix de l'électricité. Et puis vous avez toujours ce dilemme entre préservation du pouvoir d'achat et subvention aux énergies fossiles.
Carole Ferry, et dans l'ensemble, ce sont tous les prix de l'énergie qui sont atteints d'un accès de fièvre.
Rien que pour l'électricité et le gaz, le coût des aides engagées par l'État pour réduire la facture des consommateurs s'élève déjà à 14 milliards d'euros. Et ce ne sera pas suffisant. La commission de régulation de l'énergie, la commission de régulation de l'énergie, le tarif régulé de l'électricité pourrait augmenter de 12% le mois prochain, très loin de l'objectif des 4% fixé par le gouvernement.
C'est un mouvement de grève que le gouvernement va suivre de très très près demain, et nous aussi par la même occasion. La mobilisation s'annonce massive dans les écoles.
C'est pratiquement du jamais vu. Enseignants, proviseurs, parents d'élèves, mais aussi les infirmières et les médecins scolaires. Au total, 11 syndicats appellent à la grève. La moitié des écoles devraient garder les grilles fermées. Une lame de fond qui a pour origine un ras-le-bol. La crise sanitaire et ses protocoles jugés aussi inadaptés qu'inapplicables. Le ministre Jean-Michel Blanquer cristallise toutes les colères au point de le fragiliser, Jacques Seret.
Oui, cela ne s'était pas produit depuis 2017, année de son élection. Emmanuel Macron face à une grève massive de tous les syndicats enseignants aux côtés de la principale fédération de parents d'élèves. Une mobilisation qui fait frémir certains conseillers. Car le chef de l'État a fait du maintien des écoles ouvertes sa stratégie, la singularité de la France face à Omicron au regard des autres pays européens. Un atout revendiqué, une carte maîtresse dans cette campagne, en passe de se transformer en caillou dans la chaussure présidentielle. Emmanuel Macron Macron lui-même la semaine dernière admettait l'erreur de son ministre de l'Éducation devant une enseignante. « Je vous donne le point, il faut plus d'anticipation », concédait-il, un brin agacé par la publication du protocole par voie de presse la veille de la rentrée. Une semaine plus tard, les protocoles n'ont cessé d'évoluer et c'est Jean Castex qui monte au créneau. Dans la Macronie, certains y voient là un désaveu du Premier ministre pour Jean-Michel Blanquer, une tentative aussi de circonscrire un début d'incendie. L'exécutif sait le potentiel ultra-inflammable d'une mobilisation d'enseignants à 3 mois de la présidentielle. Et Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent bénéficiait d'une relative bonne image quant à la gestion de la crise sanitaire, n'a aucune envie de perdre des points dans cette dernière ligne droite.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1, hier, ce sont les soignants qui étaient dans la rue. Plusieurs manifestations, notamment à Paris, pour dénoncer aussi le manque de moyens à l'hôpital.
La crise sanitaire qui n'en finit pas avec, encore une fois, un record de contamination hier.
Plus de 368 000 nouveaux cas enregistrés, même s'il faut le rappeler, nouveaux cas ne veut pas forcément dire malade. C'est un niveau jamais atteint en France depuis le début de la crise et le virus n'a pas fini de circuler, si l'on en croit l'OMS. Plus de la moitié des Européens pourraient être touchés d'ici 2 mois et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'agence. Au contraire, cela pourrait accélérer la sortie de la pandémie grâce à l'immunité naturelle et à la vaccination.
5 heures passées de 35 minutes sur Europe 1. On prend la direction des États-Unis où Joe Biden en a fait la mère de toutes les batailles. Le président américain veut garantir l'accès au droit de vote des minorités.
Et une nouvelle occasion pour lui de s'opposer aux républicains. Le président était en Géorgie hier. Joe Biden a prononcé un discours devant les étudiants d'Atlanta, ville chargée de symboles. Celle de Martin Luther King est le berceau du combat pour les droits civiques. Cette réforme du droit de vote est plus importante qu'on ne le croit, Alexis Guilleux. Ce droit est contesté dans les États, contrôlé justement par les républicains.
Oui, en Floride, au Texas ou encore en Géorgie, les républicains ont adopté depuis un an des lois électorales restrictives pour rendre par exemple plus difficile le vote anticipé ou par correspondance, des mesures qui ciblent particulièrement les minorités et l'électorat démocrate, une attaque contre un droit fondamental selon Joe Biden.
Pour eux, trop de gens qui votent dans une démocratie, c'est un problème. Alors, ils dressent des obstacles. Le but de l'ancien président et de ses alliés est de priver de droit de vote tous ceux qui votent contre eux. C'est aussi simple que cela.
Simple as that. La solution pour le président, 2 projets de loi pour défendre le droit de vote au niveau fédéral, mais ces textes sont actuellement bloqués au Sénat. Joe Biden appelle donc à une réforme de la Chambre haute.
J'en ai assez de me taire. Que choisissons-nous ? La démocratie ou l'autocratie ? La question, quelle est la position du Sénat ? Donc je demande à tous les élus de notre pays, comment voulez-vous que l'histoire se souvienne de vous ?
Mais pas certain que cet appel soit entendu, cette réforme du Sénat fait débat, y compris dans les rangs des démocrates les plus modérés.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Le tennis.
Et à quelques jours de l'ouverture de l'Open d'Australie, Novak Djokovic attend toujours de savoir si le gouvernement lui retirera son visa ou pas. Le joueur s'est entraîné mais reste sous la menace d'une expulsion. Selon le quotidien allemand Der Spiegel, eh bien, il aurait antidaté son contrôle positif au Covid. Et puis bonne nouvelle pour l'équipe de France de handball qui doit disputer le championnat d'Europe à partir de demain. Le capitaine Valentin Porte est du voyage finalement. Son test Covid est négatif. Il a donc pu sortir de l'isolement et rejoindre ses camarades.
Et puis un mot de football de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la première journée dans le groupe D hier. Le Nigeria, la surprise générale, a battu l'Égypte 1-0, 0-0 entre le Soudan et la Guinée-Bissau, et puis 0-0 également entre l'Algérie et la Sierra Leone. De 3 matchs aujourd'hui, Guinée-Équatoriale Côte d'Ivoire à 20h, Tunisie-Mali à 14h et Mauritanie-Gambie à 17h. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses hippiques, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Deauville pour ce Quintet, un handicap qui réunira 15 chevaux et non 16, le numéro 7 ayant déclaré forfait. Probant 3 d'un quintet similaire le 23 décembre à Deauville. Sur cette piste en sable fibré, Counter Rostov, le numéro 3, sera mon préféré. Il n'est pas toujours bien luné et simple à utiliser, mais lors de sa dernière sortie, il s'est montré particulièrement coopératif. Et s'il est dans les mêmes dispositions cet après-midi, il devrait pouvoir à coup sûr lutter pour la victoire. On lui opposera les numéros 15, Just Light, et 13, Kerat, respectivement 2e et 6e d'un quintet sur ce tracé le 20 décembre à Deauville. Ensuite, je vous recommande, marquant le numéro 10, dont les 2 dernières fins de course ne sont vraiment pas passées inaperçues, et Monsieur Xo, le numéro 2, décevant dans le quintet référence du 20 décembre, mais qui ce jour-là n'a pas bénéficié du meilleur des parcours, comme me l'a confié son entraîneur deauvillais, Yann Barbereau. Enfin, les numéros 1, Breath of Fire, 8, Zorpen et 12, Salossin, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 15, 13, 10, 2, As, 8 et 12.
Ah, j'ai pas eu le temps de noter.
Non, ben moi non plus. Mais c'est pas grave. Europe1.fr, tous les pronostics sont à retrouver maintenant sur notre site Europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger et vous, on vous retrouve demain.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1.
Et à 5h39, c'est le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Le projet de loi sur la reconnaissance de la nation envers les harkis est examiné au Sénat aujourd'hui. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
C'est la traduction législative, Pauline, du pardon demandé par Emmanuel Macron en septembre dernier. Ce texte se penche sur la réparation des préjudices, de l'indignité des conditions d'accueil de ces militaires et de leurs familles, de ces hommes qui ont été engagés aux côtés de la France en Algérie. 60 ans plus tard, Pauline, retour avec vous sur l'arrivée justement des harkis en France. Nous sommes en 1962.
Deux mois après la signature des accords d'Évian et le cessez-le-feu avec le FLN, des Français musulmans rapatriés, comme on les appelait à l'époque, arrivent à Marseille. Ils ont fui l'Algérie, leur terre natale, où ils sont désormais persécutés pour s'être battus avec l'armée française. Dans les villes, dans les villages, des milliers sont torturés, massacrés, d'autres réussissent à embarquer. De l'Algérie donc, destination Marseille, le 9 mai 1962.
Je suis venu comme rapatrié, et alors j'ai pas de parents, j'ai personne. J'ai quatre enfants, ma femme et moi.
Et vous savez ce que vous allez retrouver ici ?
Non, non.
Pour vous, c'est un voyage sans retour ?
Sans retour, non plus, oui.
La vie était impossible ?
Impossible là-bas, oui, ça, bien sûr. J'ai mon fils qui va à l'école, il a quitté l'école. Alors, ça nous a démoralisés complètement.
Vous avez beaucoup d'économies ?
J'ai pas de ressources du tout.
Au moment de l'indépendance de l'Algérie en juillet 62, des milliers d'autres harkis débarqueront en France. Ils seront environ 90 000, des hommes, des femmes, des enfants qui ne savent pas où vivre, où travailler, où aller à l'école. En France, à l'époque, les autorités promettent d'accueillir et de prendre en charge le mieux possible ces milliers de personnes.
Monsieur le préfet, nous venons de voir des musulmans qui rentraient aussi. Certains sont mouillés, comme l'on dit, avec la France.
Bien sûr, il y a un service spécialisé qui est le service des affaires algériennes, qui prendra en charge ces musulmans et qui les traitera avec autant de bienveillance qu'on aurait traité n'importe quel citoyen français.
Nous savons aujourd'hui que ça n'a pas du tout été le cas lors de l'arrivée en France de tous ces harkis conduits en camion, en train vers des camps de transit, des camps censés être temporaires dans le Larzac, l'Aveyron, la Vienne, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, parqués, enfermés derrière ces murs, ces barbelés. Ils resteront des années très loin de l'intégration promise par la France.
Une intégration, une reconnaissance qui va être revendiquée, réclamée, surtout par les enfants de harkis, Pauline.
Oui, ces mêmes enfants qui ont vécu dans ces camps de transit 10, 15, 20 ans pour certains, qui ont connu la pluie dans les tentes, le froid, la boue, les couvre-feux, éloignés des villes. C'était aussi le cas des harkis qui travaillaient dans ces hameaux de forestage. Dans le sud-est de la France, une main-d'œuvre corvéable à merci, logée à proximité de leur travail. En 2007, certains harkis y vivaient toujours. Yaël Gauz était allé les rencontrer à Fuveaux, dans les Bouches-du-Rhône.
Une trentaine de familles occupent des logements en piteux état. Les murs décrépits et fissurés laissent passer l'humidité. Odeur de moisie dans ces blocs de béton aux fondations fragiles où vivent ces anciens supplétifs de l'armée française.
Une France qui les a pourtant oubliés, laissés de côté. Nous avons grandi dans un sentiment d'humiliation, dit un fils de harki, et d'exclusion depuis que nous sommes arrivés là en 62.
Moi, mon père, tant qu'il a les yeux ouverts, j'aimerais que, je sais pas, on lui donne accès à une propriété, comme n'importe quel citoyen. Ils ne parlent pas le français, c'est pas normal, ça déjà, quand ils sont venus, on aurait pu les aider déjà pour être mieux dans cette société.
Malgré les discours de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, les plaies de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants sont aujourd'hui toujours ouvertes. Ce sentiment, toujours présent, de citoyens de seconde zone, de personnes exclues en France et bannies en Algérie.
Merci beaucoup Pauline Jacquot, c'était le jour où vous restez avec nous dans un instant. On va parler des soldes d'hiver qui commencent aujourd'hui.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, il est 5h43 très précisément. Et c'est le coup d'envoi ce mercredi 12 janvier des soldes d'hiver. Une période généralement attendue par les consommateurs et les commerçants. Mais en pleine crise sanitaire, va-t-on pouvoir réellement en profiter ? Eh bien on en parle Ombline avec la secrétaire générale de la Fédération Nationale de l'Habillement.
Bonjour Florence Bonnet-Touré.
Bonjour.
Comme l'an dernier, ce sont des soldes 2022 qui se déroulent sous Covid, un lèche-vitrine perturbé par la propagation du variant Omicron. 350 000 cas positifs détectés hier, donc autant de personnes bloquées chez elles, voire plus. Allons-nous avoir vraiment envie de faire du shopping dans les boutiques cet hiver ?
Aujourd'hui, le mois de décembre a été extrêmement compliqué. Alors que d'habitude, le mois de décembre est un mois plutôt positif en termes de vente pour l'habillement, parce qu'il y a les fêtes, il y a les cadeaux de fin d'année, il y a le fait qu'on s'habille pour sortir, il y a le fait qu'on s'habille pour aller travailler. Et aujourd'hui, le mois de décembre a été pas très simple, parce qu'effectivement, entre les restrictions, les jauges, les fermetures de boîtes de nuit, de restaurants ou autres, font que les gens finalement ont beaucoup moins acheté en termes de vêtements pour s'habiller, pour sortir et en plus pour travailler. Et là, c'est vrai que cette première semaine après les vacances scolaires, les gens finalement, avec les restrictions et notamment sur le télétravail, sont beaucoup moins sortis pour aller acheter des vêtements. D'abord parce qu'on ne s'habille pas de la même manière quand on passe en visioconférence ou lorsqu'on va au travail. Et puis, cette première semaine aussi a été un peu perturbée au niveau scolaire avec le protocole pour les mis en place par l'éducation nationale, qui était très important pour protéger les citoyens. Mais finalement, on s'est retrouvé à ce que les consommateurs et les citoyens soient plutôt préoccupés de trouver une pharmacie pour faire des tests, plutôt que d'aller bagnauder et trouver la dernière chemise ou le vêtement un peu moins cher. Donc voilà, nous on espère vraiment que ces soldes 2022 seront réussis, mais les premiers prémices en tout cas, on craint que cette continuité, cette durée du télétravail, cette durée d'incertitude et de crainte aussi de ce variant et de la contamination et de la contagion pèse malgré tout sur des ventes et en tout cas une affluence nettement plus réduite que d'habitude.
Il faut aller vite, j'imagine. Les promotions vont être importantes assez rapidement. Les moins 50% vont arriver dès les premiers jours.
Alors, il est fort probable qu'effectivement, les promotions soient fortes dès le démarrage. Parce que d'abord, il y a un petit peu plus de stock que les années précédentes. Effectivement, les ventes cette année ont été un peu compliquées du fait de ces périodes un peu resserrées. Alors, pas confinement particulièrement pour l'hiver, mais entre ou couvre-feu ou télétravail. Ce qui fait que les soldes sont un peu plus importants, sont plus importants chez les indépendants et les commerçants. Et donc, il est fort probable que les promotions soient dès le démarrage assez importantes. Donc, effectivement, si vous voulez choisir les bonnes pièces, c'est dès à présent qu'il faut aller en boutique.
Est-ce que les commerces, les boutiques d'habillement en particulier, peuvent espérer des soldes lucratifs ou au minimum utiles, c'est-à-dire écouler les stocks, ou alors les commerçants se préparent-ils à vendre à perte ?
Alors, pour l'instant, on l'espère, qu'ils ne se préparent pas à vendre à perte. Lucratif, non. Les soldes, en fait, c'est pas leur objet. En fait, les soldes, initialement, et pour nous, c'est ce sens que ça leur donne. Les soldes sont un rendez-vous avec les consommateurs et les clients. Et donc, ce rendez-vous, c'est permettre aussi d'échanger, de faire écouler les stocks de fin de saison, les fins de collection, plutôt pas à perte, mais à moindre prix. L'idée n'est pas de faire un énorme chiffre d'affaires, mais plutôt de pouvoir effectivement écouler ces stocks. Donc, nous n'espérons pas qu'ils vendent à perte, ce serait une vraie catastrophe. Pour le moment, il n'y aura pas non plus de marge importante. Les soldes, ça n'a jamais été le moment de faire des marges importantes. Mais c'est plutôt favoriser ces rendez-vous avec les consommateurs pour les fins de collection.
On a la sensation que les soldes, année après année, perdent de leur intérêt. Les ventes privées se multiplient, les promotions ont lieu toute l'année. Je ne parle pas évidemment du Black Friday fin novembre. Ces deux périodes bien délimitées, ces rituels, les soldes d'hiver au lendemain des fêtes, les soldes d'été au cœur des vacances, ont-ils toujours lieu d'être ?
Ça devrait avoir toujours lieu d'être. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a observé ces dernières années un foisonnement de promotions, de périodes de pré-vente, d'actions privilégiées, qui font qu'au final, on a l'impression qu'il y a toujours des vêtements, en tout cas pour l'habillement, des vêtements en promotion ou en solde, ce qui fait que le consommateur n'a plus la visibilité sur le prix juste. On se dit toujours, finalement, je vais avoir moins 20% de quelque manière que ce soit à n'importe quel moment. En fait, ces soldes, il faut vraiment, elles ont leur importance si elles ont du sens. Et cette recherche de sens, je pense, est à privilégier avec ce temps qui est donné de fin de saison pour pouvoir écouler les fins de collection, pour pouvoir passer à la collection suivante ou à la saison suivante. Et à ce moment-là, c'est un vrai sens, un vrai rendez-vous entre des consommateurs qui viennent retrouver leurs commerçants habituels, pouvoir privilégier le conseil, pouvoir privilégier cette vente avec cette relation privilégiée. Si on conserve ce sens-là, c'est excellent. Toutefois, effectivement, la floraison de promotion risque de faire perdre du sens un peu à tout le monde.
Merci beaucoup Florence Bonnet-Touré d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la secrétaire générale de la Fédération nationale de l'habillement. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui et s'étalent sur 4 semaines jusqu'au 8 février. Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon mercredi à tous. Il est 5h49 et à 5h49, c'est le retour d'Alban Le Prince pour le journal permanent.
Et un jeudi noir en prévision dans les écoles françaises. Demain, la moitié sera fermée. 75% des enseignants seront grévistes. L'éducation nationale se mobilise massivement contre le protocole sanitaire mis en place. Dans le même temps, plus de 368 000 personnes ont été testées positives au Covid hier. Un nouveau record et samedi jusqu'à 800 000 passes sanitaires pourrait être désactivé faute de rappel d'un vaccin, selon le ministère de la Santé. Hier, ce sont les personnels hospitaliers qui se sont mobilisés par milliers dans toute la France pour exiger des moyens humains et financiers, mais aussi l'arrêt des fermetures de lits. Et puis, fini le Karcher dans la campagne présidentielle. Le groupe demande l'arrêt immédiat de l'utilisation de son nom dans la sphère politique, dénonçant les propos déplacés de la candidate des Républicains Valérie Pécresse.
On poursuit avec l'actualité culturelle et comme chaque mercredi, on part au cinéma.
Pour les sorties de la semaine avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Pour commencer Laurie, vous nous recommandez chaudement un drame social avec Juliette Binoche.
Oui, c'est le très beau Ouistreham présenté au dernier Festival de Cannes, adapté du roman de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, qu'elle a écrit après s'être glissée dans la peau d'une femme de ménage précaire, allant de petit contrat en petit contrat.
Ferry, c'est opération commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Pays au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Les invisibles, je vais les rendre visibles.
Qu'est-ce qui va être marié avant la fin de l'année ?
C'est toi.
Vous n'avez aucun doute, vous ?
Ça m'arrive. Mais là, ce que je vais raconter, c'est plus fort que mes doutes.
C'est vraiment un très beau film porté avec élégance, pudeur et sensibilité par Juliette Binoche. D'ailleurs, à l'origine du projet, c'est vraiment elle qui a su convaincre Florence Aubenas d'accepter d'adapter son livre. C'est un film, comme on l'entend dans la bande-annonce, qui rend visibles les invisibles, qui parle de la précarité, des conditions de travail, des techniciennes de surface, comme on les appelle. C'est aussi un film sur l'amitié, sur le droit au respect et la solidarité, avec, il faut quand même le préciser, des actrices non professionnelles absolument épatantes qui nous embarquent dans leur quotidien.
Et puis Laurie, on va frissonner grâce à une suite très attendue.
Oui, si vous aimez les slasher movies, ces films d'horreur qui mettent en scène les meurtres d'un tueur masqué qui élimine des membres d'un même groupe, forcément vous avez aimé Scream. Eh bien Scream 5 débarque aujourd'hui au cinéma et c'est un véritable retour aux sources, ou plutôt à Woodsboro, la ville où tout a commencé pour Sidney Prescott, avec une nouvelle génération qui doit faire face au Ghostface, le tueur masqué.
Arrête, c'est pas drôle, Amber.
Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara.
Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici.
Bonsoir, Sydney. C'est un honneur.
Bon, je vous préviens, vous allez sursauter, hurler, crier, car on retrouve tous les codes qui ont fait le succès de la franchise. C'est un véritable hommage au premier film et surtout à Wes Craven, le réalisateur de la saga, avec au casting ce trio de choc qui nous avait manqué, Neve Campbell, Courteney Cox ou encore David Arquette.
Enfin Laurie, un mot sur la première réalisation de Charlotte Gainsbourg.
Oui, c'est un documentaire Jane par Charlotte. Charlotte, pour son passage derrière la caméra, qui choisit de parler de sa mère, Jane Birkin. Elle dit « J'ai compris qu'on s'aimait de manière évidente, mais qu'on n'avait jamais su se le dire. Il y avait une pudeur entre nous que je voulais explorer. J'avais besoin d'un prétexte pour me rapprocher d'elle. »
On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre. Et je sais pas d'où elle sort.
Comme tu m'as intimidée, comme enfant.
Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas pareil que... C'était pas banal. Alors, ça commence bien.
Alors ça donne un documentaire chic et poignant qui leur a permis de s'ouvrir l'une à l'autre et qui permet aux spectateurs d'entrer dans l'intimité du clan Gainsbourg. Je vous le recommande vivement.
Jane par Charlotte, donc Scream 5 et puis Ouistreham. Voilà les sorties du jour, les sorties cinéma. Merci beaucoup, Laurie Choleva.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et une avancée majeure.
Avancée que doit dévoiler d'ici quelques minutes Éric Dupond-Moretti dans une interview au quotidien 20 minutes. Le garde des Sceaux va esquisser les contours de la future juridiction spécialisée dans les cold cases, des affaires non résolues qui dans les semaines qui viennent seront traitées par des juges dédiés, formés à traquer notamment les tueurs en série. C'est une petite révolution que réclamait depuis 20 ans maître Corinne Hermann, grande spécialiste de ce type d'affaires. Corinne Hermann, vous le savez, c'est l'avocate notamment du père d'Estelle Mouzin ou encore des familles des disparus de l'Isère. Elle se bat depuis des décennies pour que ces affaires ne tombent pas dans l'oubli. Sa réaction aux annonces du garde des Sceaux, rendez-vous dans 10 minutes. On écoutera ensuite, Ombline, votre partition.
Du rock, du blues et des personnages, le cow-boy de l'espace, le gangster de l'amour et bien sûr, le Joker. Le Steve Miller Band dans la partition dans 20 minutes.
Ah, on aurait peut-être pu garder le Steve Miller Band pour,
oui,
la météo d'Anissa Haddadi.
Ça,
hein,
ça
fait donner une petite ambiance particulière country à cette belle journée d'hiver.
Oui, avec des brouillards pour commencer la journée, comme en hiver, c'est traditionnel. Quand on a un bel anticyclone comme aujourd'hui, donc soyez prudents sur les routes. En Occitanie, en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Bourgogne, dans le Grand Est et en région parisienne, dans toutes ces régions, voilà. Prévoyez de partir peut-être un petit peu plus tôt ce matin. Attention, dans le Grand Est, hein, les températures négatives provoquent des brouillards givrants. Et ça glisse sur les routes. Ce matin, on a toujours 8 départements en vigilance. La Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Vigilance orange au cru avec l'Adour et la Garonne toujours gonflées. Prudence en aval de Toulouse. Cet après-midi, le soleil s'impose quasiment partout. La journée est très lumineuse, excepté en bord de Manche, hein, entre les Hauts-de-France et la Bretagne, en passant par la Normandie. Ça reste gris.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Nous sommes le mercredi 12 janvier. Et il est 6h. Attention, si vous êtes éligible, vous n'avez plus que 3 jours pour votre dose de rappel. Dès samedi, c'est la condition pour conserver son pass sanitaire. À Bordeaux, les centres de vaccination se préparent à une affluence record. Nous retrouverons notre correspondant dès le début de ce journal. 4 ans après le drame de Millas, la conductrice du bus scolaire renvoyée en correctionnel. 6 adolescents avaient été tués dans la collision avec un TER. Les juges n'ont pas retenu le caractère intentionnel. Le témoignage à suivre des familles. Et puis, c'est l'un des meilleurs guitaristes français et il est de retour. Axel Bauer a sorti cette nuit son dernier titre, Ici Londres, un hommage à son père, l'une des voix de la résistance française.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Jusqu'à 800 000 passes sanitaires désactivées dès samedi, estimation communiquée par le ministère de la Santé. Le 15 janvier, c'est la date limite pour faire sa dose de rappel, jusqu'à 7 mois après votre dernière injection. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant dans le Sud-Ouest. Et à Bordeaux, les centres de vaccination se préparent donc à accueillir les retardataires qui n'ont plus que 3 jours pour relever leurs manches.
Oui, cette échéance qui interviendra samedi précisément, eh bien, c'est déjà la promesse d'un afflux sans doute conséquent. Ici, par exemple, au centre de vaccination du CHU de Bordeaux, que dirige le docteur Marianne Lafitte.
Là, on s'y prépare. On voit arriver quand même l'obligation du rappel. On voit arriver le pass vaccinal. Donc, on a augmenté le nombre de lignes de vaccination. Aujourd'hui, on fait 600 ou 700 vaccinations par jour. On est prêt à monter à 1000 demain. On a des réserves d'étudiants, d'infirmières retraitées qui peuvent du jour au lendemain venir nous aider si on veut monter en charge.
Des soignants confrontés à l'agressivité, voire aux menaces et parfois aussi à des fraudeurs, prêts à tout pour obtenir un certificat de vaccination.
Il y a des personnes qui cherchent à nous gruger et même à corrompre. On a eu des billets de banque qui ont été sortis de la poche de certaines personnes qui demandaient à payer un des vaccinateurs pour qu'il accepte de lui faire un faux pass. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner toute cette équipe pour qu'on ait un discours très cohérent et très ferme. Aujourd'hui, on a quand même les moyens de vérifier si la personne a reçu une vaccination ou éventuellement a été infectée par de la Covid. Donc on fait des trods sérologiques et après on discute.
Avec des conversions quelquefois soudaines comme celle de cette sexagénaire pressée de recevoir sa première dose après avoir appris la mort, a-t-elle expliqué des frères Bogdanov.
Stéphane Place, correspondante d'Europe 1 à Bordeaux, et a noté que les débats autour du pass vaccinal reprendront cet après-midi au Sénat. Les parlementaires ont déjà supprimé la possibilité pour les gérants de bars ou restaurants de contrôler l'identité de leurs clients.
La moitié des écoles fermées demain et 3/4 des enseignants absents, c'est ce que prévoit le syndicat SNUIPP à la veille d'une journée de grève nationale. Une dizaine d'organisations l'administration appelle à protester contre la multiplication des protocoles sanitaires à l'école.
Un protocole qui repose désormais sur les autotests. Au premier cas positif, chaque élève doit en faire 3. Un prélèvement à la maison avec bien souvent des grimaces, voire des pleurs. Le gouvernement avait pourtant promis des tests salivaires moins douloureux pour les petits. Louise Salé, l'objectif c'était 600 000 prélèvements chaque semaine. Mais depuis la rentrée, Louise, ces petits flacons ont disparu des écoles.
Oui, le ministère de l'Éducation nationale a suspendu depuis la rentrée de janvier les campagnes de tests salivaires dans les écoles parce que les résultats nécessitent d'être analysés dans les laboratoires en ce moment engorgés. Lionel Barran est président du syndicat des biologistes médicaux.
Les tests salivaires, ce sont des tests PCR. C'est exactement le même matériel que ce qu'on utilise quand on fait un test PCR classique en nasopharyngé. Par contre, les autotests et les tests antigéniques ne peuvent pas se réaliser sur de la salive, pour l'instant en tout cas.
Les parents d'élèves demandent à réintroduire ces tests PCR, donc salivaires, dans les écoles parce qu'ils sont davantage supportés par les enfants. Lisa est mère de 2 jumeaux en classe de CE1 en Seine-Saint-Denis.
On ne sait pas si on le fait bien, pas bien, les enfants ont mal, ils ne sont pas du tout à l'aise avec ça, moi non plus. Manifestement, c'est assez douloureux. Ça devient un peu une séance de torture le matin avant d'arriver à l'école. Je trouve ça vraiment excessif de leur faire subir ça.
La Fédération des parents d'élèves a placé en haut de ses revendications pour la journée de grève de demain la reprise des tests salivaires à l'école.
Louise Salé du service Société d'Europe 1.
L'imprudence et l'inattention de la conductrice, voilà la cause pour les magistrats de l'accident du passage à niveau de Millas dans les Pyrénées-Orientales.
En 2017, 6 collégiens étaient tués dans la collision entre leur car scolaire et un TER. La conductrice du bus aurait forcé les barrières du passage à niveau. 4 ans après l'accident, elle est renvoyée devant un tribunal correctionnel. Les juges n'ont toutefois pas retenu le caractère intentionnel. Un coup dur pour les familles des victimes qui se sont confiées à notre correspondant Benjamin Péter.
C'est vrai qu'on joue à marquer dans le journal que les juges ne la trouvent pas responsable. Pour moi, elle ne s'est pas arrêtée, donc pour moi, elle est responsable.
Fabien est le papa du petit Loïc, qui avait trouvé la mort dans ce bus. Il ne comprend pas que les juges n'aient pas retenu la mise en danger de la vie d'autrui. Même si résigné, il s'était préparé à ce que l'affaire finisse en correctionnel et que la conductrice ne soit pas lourdement condamnée.
Dans tous les cas, elle n'aurait pas pris 20 ans de prison. L'essentiel, c'est qu'elle soit jugée. Après, voilà, ça ne nous ramènera pas nos enfants, malheureusement. Qu'elles prennent 1 an, 2 ans, 3 ans ou 20 ans, nos enfants, on les verra plus. Je suis mort, j'ai perdu mon fils. Vous voulez où qu'on aille après ça? On doit essayer de vivre avec, parce que malheureusement, et heureusement, parce que moi, j'ai encore 2 enfants derrière, donc eux n'ont rien demandé, ils ont pas mérité tout ça. Et elle est bien, c'est pas possible. On n'a pas fait d'erreur de conduite, on n'a fait aucune erreur, on a pris perpétuité. Elle a détruit nos vies. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle paye, voilà. C'est qu'elle réponde de ses actes.
Et avec l'association à la mémoire de nos anges qu'il a créée, il souhaite maintenant que des mesures soient prises pour sécuriser davantage les passages à niveau pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Après une année folle en 2021, jusqu'à 68 000 $, son cours dégringole. On parle là du Bitcoin.
La crypto-monnaie très fluctuante est passée sous la barre des 40 000 $ et cette baisse n'est pas terminée. C'est une première depuis septembre. Maud Descamps, 2 explications. La lutte contre l'inflation dans le monde et l'instabilité aussi au Kazakhstan.
Oui, car c'est le 2e producteur de Bitcoin au monde après la Chine. Or, la situation politique est extrêmement tendue depuis quelques jours avec l'éclatement d'émeutes durement réprimées. Cela a donc directement impacté le cours de la crypto-monnaie. Autre facteur qui peut expliquer cet effondrement, c'est la décision de la Banque centrale américaine qui a fait savoir qu'elle souhaitait remonter ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation aux États-Unis. Concrètement, cela signifie qu'il y aura moins d'argent en circulation et que cet argent va coûter plus cher, il y aura donc moins d'argent pour alimenter la hausse du Bitcoin, constate Maxime Chipoy de MoneyVox.fr.
L'inflation permettait au Bitcoin de se présenter comme une valeur refuge, un peu comme l'or, mais de manière virtuelle. Et à partir du moment où la Banque centrale américaine va lutter plus fortement contre l'inflation, le Bitcoin perd un peu plus d'intérêt. Mais en plus, le Bitcoin lui-même apparaît comme moins intéressant, puisque l'inflation, si la politique américaine fonctionne, devrait se calmer. Et donc on n'aura plus besoin du Bitcoin comme valeur refuge.
Et l'avenir du Bitcoin s'annonce compliqué car d'autres banques centrales pourraient décider à leur tour de resserrer leur politique monétaire pour lutter contre l'inflation.
Les explications de Maud Descamps.
Cargo, le tube qui a révélé Axel Bauer en 1984, le chanteur et guitariste est de retour.
Et il a sorti cette nuit son dernier titre, Ici Londres, un hommage à son père Frank Bauer, résistant et speaker pour Radio Londres sous l'occupation nazie. On écoute.
Les Français parlent aux Français.
Les gorilles, bananes, l'archevêque. Le Vatican doit faire avec. et la Valkyrie nous tamponne.
Et c'est un titre que vous pourrez retrouver sur son 7e album, Radio Londres, attendu le 6 mai prochain.
Merci beaucoup Romain Hoquet pour cette fin de journal musical. On passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports à 6h07 avec Martin Lange et nouveau rebondissement dans l'affaire Djokovic.
Oui, selon le journal allemand Der Spiegel, le numéro 1 mondial aurait falsifié son test positif au Covid, un élément central de sa demande d'exemption au vaccin. Le Serbe n'aurait pas été testé positif le 16 décembre comme il l'affirme, mais le 26. Djokovic qui se défend dans un communiqué publié cette nuit. Rien sur ce test, mais il plaide l'erreur humaine concernant l'oubli d'un voyage en Espagne dans sa déclaration d'entrée en Australie et l'erreur de jugement lorsqu'il a reçu un journaliste de l'équipe alors qu'il se savait malade.
On passe au football et direction le Cameroun, Martin, pour la CAN.
Oui, avec des surprises hier, l'Algérie, tenante du titre, n'est pas parvenue à battre le Sierra Leone, score nul et vierge 0-0, tandis que l'Égypte a chuté, défaite 1-0 contre le Nigeria. Trois nouveaux matchs aujourd'hui avec l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire ou encore un alléchant Tunisie-Mali. On joue par ailleurs en Europe aujourd'hui avec la Supercoupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus. Et puis ces jours de Classico Barcelone-Real Madrid, ça se passe en Arabie Saoudite pour le compte des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne.
Retour en France avec une nouvelle boutique pour le PSG.
Oui, le club de la capitale vient de lancer un nouvel espace sur les Champs-Élysées à deux pas de son ancienne boutique, 370 mètres carrés pour faire briller la marque et vendre des produits dérivés. Objectif, doubler le chiffre d'affaires du magasin avec déjà une star, Lionel Messi évidemment, Fabien Allègre, directeur du développement de la marque PSG.
Messi, bien sûr que c'est une chance inouïe pour un club comme le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur de ce niveau-là. C'est une icône. Pour les jeunes, pour les moins jeunes. Donc oui, c'est un carton.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du rugby, une décision qui est loin de faire l'unanimité. Tous les matchs de la Coupe d'Europe reportés pour cause de Covid au mois de décembre se solderont par un match nul. La troisième journée qui doit avoir lieu ce week-end est elle aussi menacée. Du hand et des Bleus qui retrouvent leur capitaine pour l'Euro, Valentin Porte a rejoint ses partenaires en Hongrie à la veille de leur entrée en lice contre la Croatie. Et puis un mot de cyclisme avec un retour sur la grande boucle, un retour attendu. Thibaut Pinot participera à l'édition 2022.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, la création d'un pôle de juges spécialisé dans les cold case. C'est ce qu'annonce à l'instant le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On en parle dans une minute avec l'avocate notamment du père d'Estelle Mouzin, maître Corinne Herman. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h12 sur Europe 1. Votre invité Julien est Corinne Herman, avocate chez Seban et Associés, co-auteur du livre « Nous, avocats des oubliés ».
Sur la piste des crimes non résolus, c'est aux éditions J.C. Lathèse. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin, car justement, ces crimes non résolus vont faire l'objet d'une juridiction spécialisée. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient il y a quelques minutes, dans une interview à nos confrères de 20 minutes, d'en dessiner les contours. Ce nouveau pôle judiciaire sera lancé le 1er mars. Il sera national et installé à Nanterre. Vous dites enfin, Corinne Herman, vous, l'avocate du père d'Estelle Mouzin ou encore des familles des disparus de l'Isère?
Oui, on dit enfin, et puis on se réjouit de cette création que nous sollicitions au terme de notre livre. On faisait plusieurs propositions. Trois propositions ont été adoptées par la loi grâce au garde des Sceaux, et on l'en remercie. On espère que les moyens seront mis et que les familles des victimes de ces dossiers oubliés seront enfin reconnues et qu'on travaillera enfin ces dossiers et on leur apportera la vérité qu'ils attendent.
Qu'est-ce que ça va changer, ce pôle de juges spécialisé dans les affaires non résolues ?
Bien, pour nous, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on va avoir des juges qui sont dédiés à ces dossiers. La première chose, c'est qu'ils vont entendre les victimes, entendre leurs demandes et comprendre que, enfin, ils sont délégués à ces dossiers et donc ils vont pouvoir travailler ces dossiers détachés de toutes les autres contingences d'un cabinet de juges et pouvoir se consacrer uniquement à ces dossiers et développer des techniques spécifiques pour essayer de trouver la vérité dans ces dossiers. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour ces victimes.
Si on prend l'exemple de l'affaire Estelle Mouzin que vous connaissez bien, depuis la disparition de cette fillette en 2003, ce sont 19 années d'enquête menées par 8 juges d'instruction différents et bientôt 9. C'est ce turnover de magistrats qui nuit aux investigations ?
Alors parfois c'est une chance parce que quand on a un magistrat avec lequel on ne peut pas travailler, c'est évidemment une chance de changer de magistrat, mais c'est pas tant le turnover que l'intérêt que portent les magistrats à ces dossiers au milieu de tous les autres dossiers de matières différentes. On voit que le pôle spécialisé en financier, le pôle spécialisé dans les attentats, dans tout ce qui est terrorisme, permettent de mieux traiter ces dossiers parce que les juges développent des spécialités et entendent directement ce qui est demandé. Eh bien, on avait besoin d'un pôle spécialisé pour ces affaires anciennes, ou plutôt les affaires qui dans lesquelles la justice est vraiment en échec depuis des années.
C'est la raison pour laquelle votre client, Éric Mouzin, le père d'Estelle, s'est ému ce week-end du départ de la juge Sabine Kéris du tribunal judiciaire de Paris, magistrate qui, on le sait, a obtenu dans ce dossier les aveux de Michel Fourniret. Vous la verriez bien à la tête de cette juridiction spécialisée ?
Oui, bien sûr, on la verrait à la tête de cette juridiction parce que elle a compris la problématique de ces dossiers anciens, de ces dossiers où la justice est en échec, de ces dossiers qui ont besoin d'une attention particulière. Et puis surtout, Éric Mouzin s'en émeut parce que Monique Olivier, qui est la seule du couple qui a survécu, refuse de parler à un autre juge que cette juge avec laquelle elle a lié une façon d'échanger. Donc il faut qu'on... Monique Olivier a besoin d'être aidée quand on entend la parole, et cette juge sait le faire. Donc que va devenir ce dossier? Donc oui, on la voit à la tête de ce pôle et on espère qu'elle reprendra ses dossiers.
Alors il se murmure également que Nathalie Turquet pourrait candidater. C'est la juge à qui l'on doit la résolution en septembre dernier de l'affaire dite du Grélé. Ce sont des magistrates qui se sont spécialisés sur le tas ou qui ont été formés par ailleurs, qui sont allés, je ne sais pas, par exemple aux États-Unis se former sur le profiling.
Je ne sais pas quelle technique elles ont employée, mais en tout cas, ce sont des magistrates qui ont été saisis de dossiers auxquels elles se sont intéressées et qui ont jugé qu'il était de leur devoir de prendre, je dirais, à bras-le-corps ces dossiers et d'essayer d'apporter une réponse, en tout cas de les observer, de les regarder, de les travailler. Pour le cas de Madame Kéris, elle a fait appel à des spécialistes qui, eux, connaissent aussi ces dossiers dits cold case, ou en tout cas connaissent ces criminels spécifiques, parce que ces dossiers ont dans leur tableau souvent des criminels spécifiques qui nécessitent une façon de travailler, une façon de regarder le dossier. Voilà, donc elle s'est spécialisée au fur et à mesure sur le dossier Mouzin. Après leur parcours, je ne le connais pas.
Alors maintenant, il y a la question des moyens. Éric Dupond-Moretti les précise dans cette interview à 20 minutes. Ce pôle national sera composé dans un premier temps de 3 juges d'instruction, d'un procureur adjoint, de 3 greffiers et de 2 juristes assistants. Et tout ce petit monde va se voir confier au moins 241 dossiers en cours. C'est le ministre de la Justice qui le dit. Ces moyens vous semblent suffisants, Corinne Hermann ?
Mais écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas quels seront les moyens aussi police qui vont être dédiés à ces dossiers. Mais il faut bien commencer par un bout. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est juste une grande victoire pour les victimes. C'est une grande avancée pour les victimes. Il faut bien commencer par un bout. On verra ensuite si ce pôle doit.
Ça fait quand même 80 dossiers par juge d'instruction. 80 dossiers, ça fait beaucoup quand même.
C'est ce qu'on a aussi, hein. C'est ce que j'ai aussi au cabinet. Donc, les cabinets de magistrats tournent à 100 dossiers d'habitude. Donc, je pense que d'abord, tous les dossiers ne vont pas arriver en même temps. Je pense que ça va être progressif. Il va falloir mettre en place des process. Donc, je pense que déjà, c'est une avancée. On verra. On va évidemment surveiller ça de très près avec Didier Seban. Mais ça, c'est déjà une avancée. C'est déjà une réponse à pas mal de familles.
Et cette avancée, à votre avis, est-ce qu'on la doit d'une certaine manière au passé d'avocat pénaliste d'Éric Dupond-Moretti ?
Je ne parlerai pas pour lui, mais en tout cas, il a entendu nos arguments. Et je pense que oui, il a été dans cette situation pour des clients aussi. Il comprend la problématique. Et puis, je dirais que c'est le sens de l'histoire de notre justice. Nous avons de plus en plus de juges spécialisés, que ce soit dans la santé, que ce soit, je le disais tout à l'heure, en matière de terrorisme. Et on a vu leur efficacité. On les connaît, nous, en tant qu'avocats, on voit la différence. C'est dans le sens de l'histoire de la justice, à savoir avoir des juges de plus en plus spécialisés, dégagés du tout venant et qui ont une efficacité redoutable par rapport à d'autres cabinets d'instruction.
Dernière question, est-ce que ça va changer votre façon de travailler ? Vous qui êtes spécialisé dans ces dossiers-là, est-ce que vous n'aurez plus à courir derrière X juges à la fois pour les convaincre, par exemple, de mettre en commun certaines affaires ?
Alors, toutes les affaires seront pas transmises au pôle, donc on aura encore à essayer de convaincre des magistrats, mais je pense qu'ils seront d'autant plus faciles à convaincre que ce pôle existera et qu'ils pourront être dessaisis, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils apprécieront. Oui, nos pratiques vont évoluer, c'est ce que je dis aux jeunes avocats, vous allez avoir un avenir différent en matière criminelle. Nos pratiques vont évoluer à tous, mais nous, on essaiera de s'adapter, on a un petit temps d'avance sur tout le monde, on essaiera aussi de transmettre nos techniques, et voilà, mais oui, je pense que ça évoluera. Oui.
Merci beaucoup Corinne Herman, merci d'avoir réagi ce matin sur Europe 1 à la création de cette juridiction spécialisée dans les affaires non résolues. Je redonne le titre de votre livre, coécrit avec Didier Seban, « Nous, avocats des oubliés », c'est aux éditions J.C. Lattès. Très bonne journée à vous.
Vous aussi, merci.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h20 sur Europe 1, les titres, Alban Le Prince.
Si vous êtes parent, vous avez peut-être déjà vu le mot dans le carnet ou reçu un message de l'école. La moitié des établissements scolaires fermés demain, les trois quarts des enseignants absents. Mobilisation aussi massive qu'historique demain dans l'éducation nationale contre le protocole sanitaire. Plus de 368 000 nouveaux cas de Covid ont par ailleurs été détectés ces dernières 24 heures. Un nouveau record alors que selon l'OMS, plus de la moitié des Européens pourrait être touché par Omicron d'ici le printemps. C'est la première cause d'infertilité en France. Jusqu'à 2 500 000 femmes en souffrent dans le pays. L'endométriose, c'est un problème de société, reconnaît Emmanuel Macron. Il a annoncé hier le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre cette maladie inflammatoire de l'utérus.
On termine avec votre partition, Omblin. Il fait partie des guitaristes américains qui ont écrit un chapitre de l'histoire du rock. Difficile de résumer le parcours de Steve Miller, tant il est atypique, ponctué seulement de quelques succès grand public.
Mais pour la profession et pour tous ceux qui le suivent, Julien, tous ceux qui l'écoutent, depuis plus de 50 ans, ce brillant musicien et leader charismatique du Steve Miller Band coche toutes les cases de la légende Steve Miller, maillon essentiel de la scène blues rock psychédélique de San Francisco des années 60 et 70.
On peut dire que Steve Miller est né avec une guitare entre les mains.
Et dans une famille aisée du Wisconsin qui ne va avoir de cesse de l'encourager. À la maison, on reçoit régulièrement le musicien virtuose Les Paul, un ami très proche des parents de Steve Miller. Il faut dire que le père Miller est le médecin personnel de l'éminent guitariste pionnier de la guitare électrique qui bientôt donnera son nom à un modèle de la marque Gibson. Voilà, il y a pire hein, comme guide et précepteur.
Effectivement, Steve Miller a 22 ans quand il s'installe à Chicago et se spécialise dans l'interprétation des classiques du blues.
Parce qu'au milieu des années 60, Chicago est encore la place forte du blues américain, mais il ne va pas résister longtemps à l'appel des sirènes psychédéliques californiennes.
En 1966, en Californie, le guitariste lance la première mouture du Steve Miller Band.
San Francisco, dit-il, lui permet de passer d'un public de club à un public de grande scène. Le Steve Miller Band se fait d'abord un nom dans la célèbre salle de concert Fillmore, au lieu de la musique psyché de San Francisco. Et puis, lors du mythique festival de Monterey, premier événement musical à incarner les idées de la contre-culture naissante aux États-Unis en juin 1967.
Du festival californien, le Steve Miller Band sort son premier album.
Children of the Future, enregistré à Londres avec le producteur et ingénieur du son Glyn Jones, connu pour son travail avec les Rolling Stones et les Eagles. Les disques qui suivent mélangent blues, rock et musique pop.
Et l'année 73 marque un tournant dans la carrière de Steve Miller.
Il met plusieurs mois à se remettre d'un accident de la route et pendant cette période de convalescence, le guitariste souhaite donner une nouvelle direction à sa musique. Des influences plus rock, moins psychédéliques, mais avec toujours de l'humour et des personnages après le cow-boy de l'espace et le gangster de l'amour. Bienvenue au Joker.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompatus. Talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong.
thicker. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and all.
Le plus grand succès du Steve Miller Band, The Joker, numéro 1 aux États-Unis, dès le 12 janvier 1974.
Ça fait du bien, merci beaucoup Omblin. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi pour la météo. À tout de suite.